À quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h, sur le 95.9.
Bonjour, merci de commencer cette semaine en notre compagnie. Séquence midi, c'est en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h. Avec vos découvertes musicales, votre agenda et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on reviendra sur un sentiment d'insécurité à Poitiers et une étude qui a été menée par une étudiante. Ce sera en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, on parle mémoire en cette année particulière. Et on accueille tout de suite Daniel Hofnung de l'association Mémoire et Vérité. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous parler. En premier lieu, de l'inauguration d'une plaque commémorative pour le camp d'internement dit de la route de Limoges à Poitiers. Je pense qu'il va falloir faire un petit peu de pédagogie auprès de nos auditeurs et auditrices pour nous rappeler ce qu'était ce camp de la route de Limoges.
Alors, pour être bref, parce qu'on peut être très long sur ce sujet, le camp d'internement de la route de Limoges a été construit en 1938 pour accueillir les réfugiés espagnols, républicains bien sûr, au moment de ce qu'on a appelé la retirada. Dans un deuxième temps, ce camp a servi à interner à partir, alors dans ma mémoire c'est 40, c'est peut-être 41, mais 40, les populations non désirées, qui étaient les Tziganes, à la demande du gouvernement français. Et enfin, à partir de 1942, les Juifs arrêtés dans la région Poitou-Charentes.
C'est vrai qu'on connaît un peu moins ces camps d'internement au sein de cette France qui n'est pas vers les frontières, qui n'est pas... est-ce que c'est une histoire particulière qui est un peu tabou? Comment ça se fait qu'on en parle moins?
C'est pas tabou, mais ce camp, autant on parle de Beaune-la-Rolande, de Drancy, c'est connu nationalement et c'est là où il y avait la dernière concentration avant le voyage sans retour pour la plupart des personnes à Auschwitz-Birkenau et dans d'autres camps de concentration et d'extermination. Autant Poitiers, il ne reste aucune trace de ce camp. Il y a maintenant une résidence avec plusieurs bâtiments depuis une trentaine d'années, je pense, ou 35 ans. Et la seule chose qui existe, qui rappelle le camp, c'est une stèle qui est sur l'avenue Jacques-Cœur. Donc il y a une cérémonie annuelle pour le souvenir des déportés des crimes de l'État français et de la rafle du Veldiv, et donc les crimes aussi contre les Tziganes, mais ce n'est qu'une fois par an, et c'est le dimanche de juillet qui suit le 16 juillet. Donc cette année, c'est le 21 juillet. Et donc, il a paru, et je voudrais lui rendre hommage, à une habitante de la Gibauderie, dans le cadre des budgets participatif de la ville, qu'il manquait quelque chose. Elle avait été très émue lorsqu'elle est arrivée à Poitiers, qu'elle a découvert ce camp de concentration, quelque part, avant les vrais camps d'extermination. Et elle a donc proposé cela, ce lutrin, qui est maintenant dans le parc de la Gibauderie, pour se souvenir plus... encore mieux de ce camp.
Donc ça a quand même rassemblé entre 2500 et 2900 personnes, c'est ça un petit peu le décompte pendant ces années-là. Est-ce qu'on sait ce qu'ils sont devenus?
Eh bien, ce que je peux, moi, à titre personnel, je vais commencer par ça, j'ai une tante et un grand-père maternel que je n'ai malheureusement jamais connu, alors que ça aurait été possible vu mon âge, et que j'ai connu tous les autres membres de la famille, qui sont passés par le camp, l'une arrêtée par la police de sécurité allemande, la Zippo, mais enfin c'était une branche de la Gestapo, et l'autre arrêté par deux inspecteurs de la police française, tous à leur domicile. De ce camp sont partis plus d'une centaine de tziganes vers les camps d'extermination ou des camps de travail forcé. Et puis 1496 juifs, donc près de 1500 personnes, dont 500 enfants. Et aucun, ce qui est important, c'est aucun des enfants, aucun des tziganes n'est revenu. Il y a eu quelques personnes qui ont survécu, par chance, mais vous voyez, ça représente quand même 600 personnes qui, de toute façon, dès le départ, devaient disparaître.
Alors aujourd'hui, c'est important de commémorer cette mémoire. Vous l'avez fait aussi avec des enfants, parce qu'il faut transmettre ces choses-là.
Alors c'est ça qui est important, c'est que la génération juste avant-guerre, la génération de la guerre et puis la génération d'après-guerre dont je fais partie, dans les 20, 30 ans, 15, 20 ans, je ne sais pas, va complètement disparaître. Et qui, à ce moment-là, sera le passeur de mémoire ? Quand on voit la situation actuelle de la France, sans m'apesantir dessus, mais vous comprenez sans doute probablement ce que je veux dire, on peut se poser des questions sur l'avenir et qu'est-ce qui peut se produire ?
Donc, comment s'est passé ce passage de témoin, on va dire, avec les enfants pour ce camp ?
Alors, là, il faut rendre hommage à leurs enseignants d'histoire, Monsieur Touron, Madame Chassagne, pardon, qui ont fait un travail remarquable. Il y a eu une exposition, ils ont écrit un livre, Les chemins de la liberté, et ils ont travaillé, bien évidemment, sur ce camp d'internement, et il y avait plus d'une centaine de collégiens avec leurs enseignants qui étaient présents à cette inauguration.
Donc c'était les élèves du collège Ferdinand Clovis-Pain qui ont travaillé.
Absolument.
Sur cette histoire. Une année particulière, je le disais, comment Mémoire et Vérité, votre association, participe justement à ces passages de témoins, à travailler sur la mémoire de tout ce qui s'est passé ?
Alors déjà, l'inauguration du Lutrin, on a souhaité y participer, c'était important pour nous. Depuis 2022, on réalise chaque année, en partenariat avec l'Espace Mendès France, une conférence, voire deux, comme en 2022, les deux jours des journées européennes du patrimoine, où on a fait deux sujets sur le camp d'internement de la route de Limoges. Et puis, en 2023, en octobre, le sujet était sur les Justes de France, dans la Vienne et les Deux-Sœurs. Et pour le 9 octobre, nous aurons une conférence, toujours à l'Espace Mendès France, qui s'intègre dans un colloque organisé par l'université, où participent aussi les archives, sur la falsification de l'histoire par les nazis et l'utilisation des fausses nouvelles, ce qui montrera que ces fake news ne sont pas d'aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux.
Est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression que cette mémoire est difficile à faire entendre, comme vous le disiez, tous ceux qui l'ont vécu ou dont les parents ont vécu ces histoires tragiques vont disparaître? Est-ce que c'est en train de s'effacer?
Je le crains, pas chez tout le monde, heureusement, mais on voit bien qu'avec ce qu'il se passe actuellement, la libération de la parole antisémite depuis une trentaine d'années, la dernière campagne européenne, l'explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre crée vraiment un très grand malaise parmi les Français juifs. Et malheureusement, si le pire se produit, ça touchera aussi, bien sûr, tous les immigrés, quelle que soit leur origine.
Un grand merci Daniel Hoffnung donc de l'association Mémoire et Vérité d'être venu témoigner et nous parler donc de cette commémoration et cette inauguration donc d'un lutrin sur ce camp d'internement de la route de Limoges. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On continue en musique après avoir sorti 4 singles. Jaël a dévoilé en ce début d'année son album Moonlight sur le label 1988 Records. Voici un extrait, le titre Away.
Dans la clarté.
Pulsar, c'est bon.
D'accord, personne ne dit le contraire.
Point d'exclamation.
Isabelle a rencontré Zoé Jordan, étudiante qui a étudié le sentiment d'insécurité à Poitiers.
Alors oui, Zoé, vous avez cartographié les endroits où les femmes se sentent le moins en sécurité à Poitiers. Vous êtes étudiante en géographie, plus précisément en développement des territoires en transition à l'université de Poitiers. Et vous avez donc réalisé cette cartographie dont je viens de parler dans le cadre de votre mémoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez procédé ?
Alors du coup, moi j'ai fait ce mémoire depuis septembre. C'était une étude que j'ai décidé de faire de façon plutôt qualitative. J'ai fait des ateliers de réalisation de cartes sensibles de façon collective, en fait, avec des femmes étudiantes qui étaient volontaires à venir participer. J'ai fait trois ateliers. Et en fait, ces trois ateliers étaient organisés de façon qu'il y avait une grande carte de Poitiers avec toute une trame de questions. Et le but était en fait d'avoir le ressenti global de ces femmes par rapport au centre-ville et qu'elles répondent sur la carte avec des couleurs, des feutres, des symboles qu'elles choisissaient pour avoir une carte sensible. Et après, plus à la fin, de se concentrer vraiment sur le sentiment d'insécurité et leur expérience de harcèlement de rue qu'elles ont vécu.
Et donc, quelles ont été les conclusions de votre enquête ?
Alors, il y a beaucoup de conclusions. Je pense que la plus intéressante, c'était que sur ces 11 femmes, les 11 avaient des expériences de harcèlement de rue à raconter. Et pas seulement une. Il y avait vraiment, toutes les femmes avaient plus de 3 expériences, je dirais, à raconter par rapport au centre-ville de Poitiers. C'est des expériences de harcèlement de rue qui vont de se faire siffler, une insulte, à se faire suivre, à de la masturbation, des attouchements sexuels, etc. Et en fait, tout ça, ça développe un super fort sentiment d'insécurité dans les villes de Poitiers qui sont causées par plein de choses, par ces expériences qu'elles ont vécues, par la luminosité, les rues qui sont sombres, l'éclairage. Il y a aussi tout ce qui est lieu festif qui n'aide pas du tout avec les excès d'alcool et tout ça.
Oui, et vous avez d'ailleurs travaillé avec l'association Bien dans nos rues Poitiers. Comment s'est passée cette collaboration ?
Moi, j'ai travaillé avec ces étudiantes, surtout en se servant de leurs sondages qu'elles ont réalisé il y a 2 ans. Elles ont fait tout un sondage où il y a eu plus de 2700 réponses, où il y avait une majorité de femmes étudiantes qui répondaient. Donc moi, ça collait parfaitement à mon sujet. Et ça me permettait d'avoir vraiment des chiffres pour expliquer le sentiment d'insécurité à Poitiers. Il y a 84% des personnes qui ont répondu au sondage qui ressentent de l'insécurité à Poitiers. C'est 72%. Et c'est 84% qui ont vécu du harcèlement de rue. Donc voilà. Et ça m'a permis aussi, ce sondage, de faire une carte avec ses plus grandes réponses, j'ai répertorié les lieux où il y a le plus d'insécurité et d'expérience de harcèlement de rue. On a la place Notre-Dame, la gare, la rue Carnot, les Cordeliers et la Grand Rue. Et si je me souviens bien, il y a le pont Joubert aussi. Voilà.
Et est-ce que certains de ces lieux donc sont peut-être pas propres à Poitiers, comme la gare, ça se retrouve dans d'autres villes aussi ?
Oui, en fait, la gare, il y a plusieurs choses. Déjà, la gare a une mauvaise réputation. Dans toutes les villes, les gares, en fait, ont des mauvaises réputations. Et en fait, ce qui fait que du coup, dans les consciences collectives, en fait, il ne faut pas traîner à la gare, il ne faut pas être seul à la gare. Et du coup, c'est vraiment, ça engendre un sentiment d'insécurité. Et il y a aussi le fait que, par exemple, autour de la gare de Poitiers, il y a beaucoup de commerces à connotation masculine, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'hommes immobiles. Et les groupes d'hommes immobiles créent ce sentiment d'insécurité aussi.
D'accord. Et est-ce que les résultats de votre enquête ont été partagés ? Qu'est-ce qui a suivi ?
Alors oui, j'ai pas mal partagé ces résultats. Déjà, il y a eu un article qui a été fait dans La Nouvelle République et dans le 7. Ça, je suis très contente parce que le but de cette étude, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais c'est de le partager pour que tout le monde ait conscience que le sentiment d'insécurité, c'est partagé par tout le monde. Et lundi, dans 3 jours, je passe devant les élus de Poitiers pour présenter mon étude et les résultats que j'ai eus.
Est-ce que cette étude va avoir une suite ? Enfin, j'ai vu que, par exemple, vous vouliez intégrer les femmes de plus de 65 ans. Est-ce qu'il y a aussi d'autres champs que vous voudriez explorer ?
Oui, alors, les femmes de plus de 65 ans, c'était dans mes objectifs au départ de pouvoir faire une comparaison entre les jeunes femmes de Poitiers et les femmes de plus de 65 ans. Malheureusement, c'est une population qui est difficilement accessible dans le centre-ville. Mais du coup, oui, en septembre, j'aimerais continuer mon mémoire et en fait étendre à la population entière, pas seulement les femmes, les minorités de genre et les hommes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à étudier dans toute la population en globalité, et de m'étendre à Grand Poitiers et plus seulement au centre-ville.
Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place à Poitiers ? Je pense par exemple au plan Angela. Est-ce que vous avez connaissance de diverses actions qui sont menées pour lutter contre cette insécurité ?
Oui, du coup, le plan Angela est le principal dispositif qui est mis en place. Pour rappel, le dispositif, c'est la sensibilisation des établissements et des commerces au harcèlement de rue et pour pouvoir trouver refuge dans ces établissements quand on se sent pas bien, quand on a été agressé grâce aux petits stickers. Eux, ils savent comment réagir. Ça, c'est ce qui est principalement mis en place. La mairie essaye d'étendre au maximum et surtout aux endroits où il y a le plus d'insécurité et au plus d'harcèlement, notamment dans les bars et les boîtes de nuit. Ça va venir très rapidement. Il y a beaucoup de discussions autour de l'extinction de l'éclairage public. C'est vraiment beaucoup débattu parce qu'au début, ça a été mis en place pour des raisons plutôt écologiques, des volontés d'économie aussi très importantes. Mais en fait, on se rend compte que, alors, on n'a pas les chiffres exacts de s'il y a plus d'agressions ou pas, mais on sait pertinemment que ça augmente le sentiment d'insécurité. Donc il y a tout ça qui est vraiment discuté en ce moment.
Et ça avait été dénoncé par le collectif Bien dans nos rues,
oui.
Qui d'ailleurs a aidé la mairie à mettre en place le plan Angela dont vous parliez à l'instant.
Oui.
Et vous jugez que de toute façon, ces plans, de façon générale, sont assez peu connus en fait. Par exemple, on peut s'arrêter en bus entre deux arrêts la nuit, il me semble.
Oui, complètement. Oui, en fait, il y a aussi un gros manque de communication par rapport à ces dispositifs, parce que même par rapport à l'extinction, tout bêtement, le centre-ville en lui-même ne s'éteint pas après minuit. C'est vraiment tout ce qui est plutôt autour. On a aussi des trajets qui restent allumés jusqu'à 2h du matin, qui sont les horaires du Noctambus. Mais en fait, il y a tellement peu de communication dessus qu'on ne sait pas. C'est pareil pour le plan Angela. La communication vient vraiment petit à petit. Pour le bus, moi, je l'ai appris super tard alors que j'avais fait énormément de recherches pour savoir ce qui se faisait à Poitiers. Donc, c'est vrai qu'il y a un manque de parole sur ce sujet-là, quoi.
Effectivement, des affiches avaient été mises dans le bus à une époque, mais en ce moment, je ne sais pas exactement ce qui est fait à ce propos. Mmh. Et sinon, qu'est-ce qui vous a conduit à parler de ce sujet qu'est-ce qui vous a lancé en fait là-dessus?
Moi, quand je commence la géographie cette année, avant j'ai fait de l'histoire et de la science politique. Et en fait, j'ai appris qu'en géographie, on pouvait lier l'émotion au territoire, au ressenti et à l'espace. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et j'avais vraiment envie de faire une étude sur les femmes parce qu'elles sont encore trop peu représentées dans la recherche scientifique. Et je pense que c'est vraiment important de mettre un accent dessus. Et tout de suite, quand j'ai pensé émotion femme, la première chose qui est venue, c'est le sentiment d'insécurité. Et je pense que Poitiers a quand même pas mal de problématiques à ce sujet. Et à part ce qui a été fait par Bien dans nos rues, qui a un super travail, il n'y a rien d'autre qui a été fait. Et je trouvais ça important d'appuyer avec une recherche scientifique, entre gros guillemets, et une approche plus qualitative de témoignages et tout ça.
Et vous, vous êtes arrivé à Poitiers en septembre. Est-ce que dans d'autres villes, vous avez pu mener ce genre d'études ou vous avez un ressenti différent ?
Non, c'est la première fois que j'étudie l'insécurité. Je sais que c'est étudié aussi à pas mal d'endroits différents. Et la ville qui est, on va dire, pionnière sur ce sujet, c'est Bordeaux. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur l'insécurité. Mais je pense que c'est vraiment hyper important de l'étendre, ouais.
Et donc, est-ce que les conclusions de votre étude que vous allez donc présenter dans quelques jours, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui l'ont vue, qui se sont montrées intéressées? Quelles ont été les réactions?
Oui, il y a plusieurs élus qui ont demandé à me rencontrer, à être vraiment plutôt intéressés par cette étude. Après, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire. Pardon. Les propositions que je propose à la fin, ce sont les témoins que j'ai interrogés qui m'en ont parlé. C'est des choses toutes simples comme plus de luminosité, plus de sensibilisation. Mais c'est vrai que si ces propositions-là sont demandées, c'est qu'il y a un manque de soutien apparent qui est vraiment important et qu'il faut y remédier, quoi.
Est-ce que vous avez des idées de communication possible ?
Moi, je sais qu'en tout cas, personnellement, ce qui marche le mieux sur moi, c'est les grandes affiches. Et moi, je trouve que c'est le meilleur moyen. En plus, on peut vraiment exprimer quelque chose de super créatif à travers des affiches. Et je pense que, ouais, une grande campagne de sensibilisation là-dessus et surtout de rappeler aux femmes qu'en fait, un sentiment d'insécurité, certes, c'est quelque chose de subjectif, mais on vous comprend, on sait ce que vous ressentez, vous n'êtes pas seule. Et oui, on prend en compte ce que vous ressentez et je pense que c'est le plus important.
Bah, merci beaucoup Zoé Jordan.
Merci à vous.
Et merci à toi Isabelle, on te retrouve demain dans Espace Matin entre 8h et 9h. Tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. avec une exposition qui débute aujourd'hui de l'association Odalisque. Ce sont des dessins de nus au dortoir des moines rue Paul Gauvin à Saint-Benoît. Odalisque, c'est une association d'une douzaine d'artistes peintres, dessinateurs ou sculpteurs, le plus souvent amateurs, qui évoluent librement autour du thème du nu, chacun apportant son style, sa sensibilité et sa technique. Donc, pour admirer le travail des adhérents d'Odalisque, rendez-vous au dortoir des moines à Saint-Benoît. Midi musicaux, si vous êtes à côté du rectorat, c'est tout de suite à 13h, un concert tout public par les étudiants et étudiantes musiciens du pôle Aliénor. Ça dure 30 minutes et l'entrée est libre dans la limite des places disponibles. Le spectacle des adultes du secteur loisirs et de la classe CPES de l'École nationale de cirque de Châtellerault, c'est au chapiteau de l'École du cirque à Châtellerault, donc à 19h. Sur Pulsar, retrouvez à 18h And the Tap Drips, qui accueille la chorale de chant polyphonique Les Folyglottes. À 19h, c'est de la bande dessinée avec X-Bull. À 20h, c'est Punks. Et de 21h à 23h, du live dans Scrognogneux. C'était Grégory à la réalisation technique. Merci à lui. On se quitte avec une sortie du label Culture Dub Records. Vous savez, c'est ceux qui sont en lien avec votre émission Dub du mardi soir. Voici All Trackers en featuring avec Sierra et le titre We Are One. Bonne écoute, à demain.
Can be your daughter, can be your mother, can be your sister, can be your daughter. Just wanted to feel free to cross out the street, and I just wanted to feel free to put a skirt on.
Je voudrais que la terre devienne un jardin, que les hommes n'arrêtent pas de chanter comme des petits oiseaux, qu'on leur donne
l'amour. Autrement dit, une exubérante bonté.
Plus ça,
les étoiles en plus.
Indéfiniment.
Oh, regardez!